La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et pour décortiquer l'actualité de ce mercredi jusqu'à 19h, vos grandes voix sont là autour de vous. Nathalie Lévy, ce soir Eve Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, chef du service économie de la station.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir.
Bienvenue un peu plus proche dans ce studio, mais toujours à bonne distance, on se retrouve. Alors évidemment, on va commencer avec une question qui intéresse tous les Français. Bien sûr, les municipales, ça c'est pour vous, Mickaël Darmon, mais c'est dans un instant, c'était à l'envers. Parce que, bien sûr, ce qui intéresse aujourd'hui les Français, Eve Roger, c'est ce week-end de l'Ascension, mais surtout la réouverture des plages. Et on a vu que certaines referment parce qu'il y a de l'indiscipline, mais évidemment, la tentation, elle est forte.
Alors, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, on a entendu dans le journal de 18h qu'il y a 9 plages qui allaient fermer, mais que dans le Morbihan, mais il y a encore 170 ouvertes, hein, donc rien n'est perdu. Pour cette petite fille qui pleurait, il y en a quand même d'autres. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, les plages, c'est pas les plages qui sont dangereuses, c'est ce qu'on y fait dessus. Et c'est un peu là, vous savez, il y a plusieurs formes de plages. Il y a les plages familiales, il y a les plages où on peut faire du jogging.
Active,
on peut activer ça. Et visiblement, les plages qui ferment, c'est pas du tout ces grandes plages où on va pique-niquer en famille, c'est plutôt les plages qui ressemblent sans doute plus à des plages où on va le soir entre amis, au bord d'un feu de bois peut-être, en train de peut-être regarder la mer, boire des bières et fumer des cigarettes. Hein.
Ah, c'est l'irisque. Hein.
Ce que je comprends, en fait, c'est l'usage qu'on fait de la plage qui peut être dangereux. Et effectivement, quand on ne peut pas empêcher les regroupements, et les regroupements où on reste assis à moins d'un mètre les uns des autres, c'est difficile. Et puisqu'on voit sur ces plages qui ont fermé, c'est parce qu'il y a eu des insultes, des dégradations. C'est pas parce qu'il y a des gens, vous voyez, même quand on se balade à Paris la Seine,
aux Invalides,
c'est vrai qu'on est très très nombreux.
Exactement.
Mais on sent que les gens font malgré tout un peu attention. On essaie de s'éviter, même si on n'y arrive pas trop parce qu'on est trop nombreux. Mais il y a aussi la volonté de faire attention, et visiblement.
Bon, en tout cas, il y a des communes qui font marche arrière, effectivement, et donc il faut continuer à être très prudent. Voilà, exactement. Responsabilité individuelle. Emmanuel Duteil, on est à la veille de ce long week-end. Il y a des destinations qui sont plus prisées que d'autres,
oui,
selon là où on se trouve. Hein.
Alors là, on a bien senti en écoutant Eve Roger qu'elle a un manque de plage et de mer de façon impressionnante. Et c'est, en tout cas, de ce qu'on voit dans les réservations, c'est pas obligatoirement ce qui ressort principalement. Pourquoi ? Parce que ceux qui réservent le plus, ce sont les Franciliens et ceux qui ont vécu vraiment dans les grandes villes le confinement. Donc ceux à qui vraiment le manque de verdure a peut-être encore, voilà, dans le bitume a beaucoup plus manqué. Donc effectivement, les principales demandes, elles émanent des Franciliens. Et force est de constater que ceux qui réservent respectent la règle, puisque c'est assez facile de regarder qu'il reste à une centaine de kilomètres de l'Île-de-France. Alors je suis désolé, mais si Eve Roger cherche à se retrouver avec tous ses amis parisiens ce week-end, il faut qu'elle aille à Provins. Là, on est en Seine-et-Marne, très jolie cité médiévale pour ceux qui n'ont pas eu la chance.
Moi, c'est la mer ou rien.
Oui, bah Eve Roger, il y en a qui ont envie d'aller à Provins, semble-t-il. Donc, et là, plus sérieusement, Provins, Fontainebleau, Rambouillet, enfin bon, toute cette zone de l'Île-de-France verte, c'est ça qui est plébiscité. Et c'est là où véritablement il y a une grosse demande. On voit après des demandes sur la Normandie, sur la Vendée, sur la Bretagne. Alors là, soit ce sont des gens qui vont un petit peu dépasser les 100 kilomètres, ou des gens qui sont dans les grandes villes également
dans ces zones-là. Alors, on va revenir vous voir, Emmanuel Duteil, Eve Roger, mais évidemment, l'autre grande question aujourd'hui des Français, Mickaël Darmon, c'est municipal. Est-ce qu'on ira voter ? Peut-être le 28 juin prochain, en tout cas, cette date a été évoquée, mais toujours est-il que c'est un casse-tête chinois, non ?
C'est plus qu'un casse-tête, quel que soit son pays, c'est vraiment un imbroglio duquel on peut pas sortir. C'est une épine dans le pied du gouvernement pour 5000 communes. Tout cela parce qu'il y a eu évidemment cette polémique liée à ce vote maintenu donc le 15 mars au premier tour et qui a provoqué tant de problèmes. Et il y a maintenant tant de difficultés. On voit le conseil scientifique qui effectivement était extrêmement prudent en disant bon écoutez vous pouvez y aller, on s'oppose pas, mais en mettant tellement de barrières et tellement de conditions que c'est un petit peu pour dire débrouillez-vous. On voit bien que l'exécutif a du mal à trouver donc effectivement une date.
Il y aura apparemment la date du 28 juin.
C'est celle vers laquelle on pourrait aller.
Consensus.
Effectivement, pour l'instant, ça pourrait être une direction, mais on voit aussi qu'il y a encore beaucoup de réticences. Il y a le fait qu'on ne sait pas sur la situation sanitaire. Le conseil scientifique donnera un deuxième avis aux alentours du 10 juin. Donc tout cela comment faire campagne avec et bien évidemment un impact très important sur le plan de relance, c'est-à-dire que beaucoup font valoir que tant que les mairies ne reprennent pas les contrats donc avec le BTP, eh bien il n'y aura pas de possibilités de pouvoir relancer les travaux et de faire repartir la machine économique.
On en parlait hier soir, j'écoutais. Mais c'est capital.
Du point de vue politique, beaucoup d'élus font valoir qu'effectivement, cela dépend, ce plan de relance dépend également de la possibilité de repasser des contrats de la part des collectivités.
Alors, on y revient évidemment avec vous et d'autres sujets par les grandes voix en direct sur Europe 1. Encore pendant 20 minutes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Avec Ève Roger pour redémarrer parce que, évidemment, on a parlé de Parcoursup hier, c'est tombé à 17h, et ce bac 2020, avec un décret en préparation, hein, d'ailleurs, sur le baccalauréat pour les notes, vous allez nous expliquer ça dans un instant. On a tout dit sur ce bac, quelle sera sa valeur, ce bac Covid-19, ces lycéens Covid-19. Vous nous
2020,
dites non
oui.
Oui, 2020, pardonnez-moi, j'ai un an de retard.
2019,
ce bac, qui comptera.
Moi, c'est un peu le sentiment qu'on avait, même en les écoutant, ce sentiment un peu d'avoir un bac au rabais, de pas passer ce rite initiatique qui signe le passage vers l'âge adulte. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, on se rend compte que les bulletins du premier et du deuxième trimestre, c'est des bulletins où les notes sont extrêmement sévères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la terminale, la première copie de philo, en général, elle n'est pas bonne du tout. Vous voyez, c'est plutôt autour de 4-5. Et en plus, les profs notent un peu sec pour pousser leurs élèves à faire des efforts. Donc en fait, ces premières notes, quand le candidat, enfin à l'époque il n'était pas candidat, le lycéen rédige sa première copie de philo ou autre matière, il n'était pas en train de se dire qu'il était en train de passer le bac. Donc en fait, les notes sont plus sévères, l'élève donne moins de lui, et on sait qu'au bac, en fait, les élèves ils surperforment quand ils passent l'examen, parce qu'ils sont
très préparés,
ils se sont gonflés, etc. Très motivés, etc.
Oui, mais là, par exemple, l'harmonisation des notes en fonction des établissements, les notes arrondies au point supérieur.
Voilà, alors c'est pour ça que ça peut donner l'impression que c'est un bac au rabais. Oui. Parce que c'est vrai que ce matin, quand j'ai entendu dans le papier de Virginie Salmen que quand on aurait 9,1 de moyenne, on passera à 10, je me dis, c'est tranquille. Et puis en fait, non, je me rends compte que ce 9,1 de moyenne, c'est une note très sévère par rapport aux notes du bac. Donc il y a déjà 7 arrondis. Mmh. Et en fait, c'est simplement pour réparer la différence par rapport aux années précédentes. Et puis pour les lycées, donc il y a toujours ce problème quand vous êtes dans un très bon lycée, les notes aussi sont beaucoup plus sévères. Ouais. Donc exceptionnellement dans ce décret, il est dit que les jurys auraient accès aux 3 dernières années pour regarder combien il y a de mentions dans ce lycée, quelles étaient les notes en moyenne pour justement réajuster, rectifier. Donc d'une certaine façon, c'est plutôt
donc même valeur.
Ce bachelier 2020, l'idée c'est plutôt de les pas de rehausser le niveau parce que le niveau
mais d'harmoniser finalement voilà. D'harmoniser ce bac du coronavirus.
Voilà, c'est ça. Après, je pense qu'il faudrait demander aux employeurs, c'est-à-dire que quand vous arriverez avec votre bac 2020
ou un bac 2019, est-ce qu'ils feront
un entretien d'embauche, non ? Mais sans doute on vous posera sans doute la question. Alors ce bac, c'était comment ?
Je ne suis pas certain, Ève Roger, qu'on présente souvent notre bac pour aller chercher un emploi aujourd'hui. Mais en revanche, ce qui est très important et qui est un corollaire de ce qu'est en train de dire Ève, le gros problème, c'est pour tous ceux qui ont besoin d'un stage étudiant pour finaliser leur scolarité. Alors c'est bien souvent après le bac. Mais là, c'est un gros souci parce que beaucoup moins d'offres.
On l'a dit hier, oui.
En partie à cause de la baisse du Covid et également à cause des mesures sanitaires. Donc c'est aussi un point très 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 important.
Michaël Darmon, on se parlait des municipales, évidemment, cette patate chaude, ce danger à tous les points de vue, en fait, de les jouer le 28 juin ou à la rentrée, parce que de toute façon, si ça crée de nouveaux clusters, s'il n'y a pas suffisamment de gens qui se déplacent pour aller voter, on pourra tout dire sur cette élection. Et si c'est trop tard, on pourra aussi tout dire sur cette élection. Il n'y a pas de bonne décision.
Oui, en fait, ce deuxième tour des municipales, c'est un cluster politique. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que c'est l'occasion que saisit la droite pour envoyer un message à Emmanuel Macron en disant « on n'est pas là pour t'aider ». C'est terminé. On est à 2 ans de l'élection présidentielle. On est passé à autre chose. Il y a un déconfinement de la vie politique que l'on sent très nettement, tant à droite par la manière dont, effectivement, le Sénat a déjà constitué une commission d'enquête parlementaire pour pouvoir examiner la manière dont l'État a géré la pandémie, tant du côté, effectivement, des municipales, tant à gauche également, on l'a vu, avec le nouveau groupe qu'on a beaucoup suivi, mais d'autres initiatives qui sont en train de se préparer. En clair, il y a quand même la décision à droite et à gauche, de dire la vitrification qui avait été imposée par Emmanuel Macron depuis 2017, c'est terminé. On va maintenant repartir sur la constitution de projets pour pouvoir aller donc à l'offensive et cibler bien entendu, le voilà, président de la République.
Il faut en finir avec le boulet des municipales.
C'est la raison pour laquelle, pour Emmanuel Macron, s'il veut être capable de pouvoir passer à un autre projet, à une autre séquence politique, il faut terminer, coûte que coûte, fermer la porte, quelles que soient donc, les conditions dans lesquelles ça se passe.
Je reviens vous voir dans quelques instants. Emmanuel Dutheil, on a beaucoup parlé de Renault aujourd'hui avec la possible fermeture hein, de trois usines, notamment, qui fait des vagues. Et d'ailleurs, Édouard Philippe l'a dit, redit, on veillera, mais vraiment au grain, dans tous les aspects de ce plan.
Alors il faut voir hein, déjà pourquoi on réfléchit en ce moment à un plan chez Renault, c'est tout simplement parce que la situation est extrêmement compliquée. Du côté de Bercy, on le dit très clairement, hein, c'est l'avenir de Renault qui est en jeu. Alors ça peut paraître fou de dire comme ça, parce qu'un monument comme Renault, bien évidemment que ça ne peut pas disparaître. Et grâce à leur alliance avec Nissan et Mitsubishi, effectivement, a priori, ils ne peuvent pas disparaître comme ça. Il n'en reste pas moins qu'ils sont en grande difficulté. Le groupe doit donc complètement se réinventer et doit présenter notamment un très grand plan d'économie. Le problème aujourd'hui, c'est que Renault, sous l'ergone, s'était lancé dans ce qu'on appelle la course au volume, c'est-à-dire fabriquer toujours plus de voitures. Et les usines françaises étaient restées dimensionnées pour aller dans le sens de ce plan. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette course au volume, on espère juste déjà vendre ce qui a été produit. Donc les usines sont surdimensionnées, donc le groupe, à la marge, va réduire et fermer effectivement quelques sites. On parle par exemple de l'usine de Dieppe, on parle de la fonderie de Bretagne, ce sont des petits sites industriels. Il y a le nom de l'usine de Flins, qui est là une usine plus emblématique du groupe, qui a été citée voilà, également dans celle qui pourrait fermer. Selon les informations qu'on a pu recueillir à Europe 1, elle ne va pas fermer, elle va être transformée. Mais malgré tout, chez Renault, de ce qu'on m'a dit, il est bien possible qu'on n'y fabrique plus des voitures. Donc je pense que vous êtes un salarié de Renault depuis des années, on vous dit vous arrêtez de fabriquer des voitures, vous avez l'impression que votre usine ferme. Ça montre bien à quel point ce plan va être extrêmement fort. Va s'ajouter à ça des réductions de postes partout, hein, dans l'ingénierie, partout. On parle plutôt de départ volontaire pour le moment, de départ anticipé. Mais bon, quand on parle de la fermeture de sites industriels, malgré tout, a priori, il va falloir licencier quelques personnes. Alors certains de nos auditeurs pourraient se dire « mais j'ai cru entendre que l'État allait les aider, comment c'est possible ?» que l'État autorise des licenciements. Là encore, à Bercy, on est très clair. Mmh. On dit si le zéro licenciement, ce serait pratique d'un point de vue politique, ce serait impossible d'un point de vue économique. Donc oui, il va y avoir des licenciements, mais il y aura des contreparties de Renault, le vert, la croissance électrique, la croissance des voitures autonomes, etc., etc. Et peut-être un truc très symbolique. Je parie sur une relocalisation de certaines productions qui sont faites hors de France pour le moment.
Bah voilà, c'est tout ce qu'on espère. On vous retrouve les grandes voix dans un petit instant sur Europe 1, tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Oui, un peu moins de 19h, alors on va essayer d'aller tous vous voir, évidemment, parce que j'aimerais bien aborder plusieurs sujets avec vous tous. Ève Roger, rapidement, même si on va y revenir longuement et souvent, parce que c'est aujourd'hui vraiment le sujet clé, ces infirmières françaises qui sont classées en termes de salaire 22e hein, sur 33 hein, des pays de l'OCDE, mais pourquoi nos infirmières sont si mal servies, si mal payées?
C'est vrai qu'on se demande pourquoi les Françaises gagnent moins que les Belges, les Allemandes, les Espagnoles, les Italiennes, les Anglaises. Et en fait, si vous voulez que j'aille rapidement, il y a une raison principale, c'est une raison historique en réalité. Parce qu'à l'origine, qui étaient les infirmières? C'était des religieuses. Et c'était une vocation, c'était un engagement. Donc elles faisaient ça absolument gratuitement. Et gratuitement, ça veut dire que le travail n'était pas considéré comme tel. Et il est resté quelque part en France de cette notion que les métiers, vous savez, comme l'enseignement... Les profs ont dit oui, et là c'est aussi des métiers où il y a beaucoup de femmes, c'est une des qualités naturelles, ce ne sont pas des compétences, et donc on paye de toute façon beaucoup moins des qualités naturelles, une vocation, un engagement que des compétences. Et c'est en partie la raison pour laquelle les infirmières françaises aujourd'hui sont si mal payées. Alors j'ai d'autres raisons, mais je crois que vous m'avez dit d'être rapide.
Bon, merci Ève Roger, mais on y reviendra hein, ce sujet, parce qu'on sait de toute façon,
on sait très bien
que ces métiers à prédominance féminine, de toute façon, ils sont mal rémunérés, et évidemment, ça va peut-être changer. Michaël Darmon, quelques mots, parce qu'on l'a dit, on est dans une période cruciale pour l'exécutif, avec un exécutif qui aussi se joue à deux pour l'instant, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, et on entend bruisser qu'Édouard Philippe serait sur le départ, peut-être même avant le 14 juillet.
Alors, on entend régulièrement, depuis quelques mois, hein, qu'Édouard Philippe serait sur le départ, que les relations sont tendues, que ça ne marche plus ou ça ne marcherait plus dans le binôme exécutif. Tout cela est vraiment à nuancer, parce qu'à la fois, On sait depuis le début que les deux hommes ont une relation loyale, franche, assez fluide. Et à côté de cela, vous avez les mécaniques de la Ve République. Vous avez les mécaniques du temps politique. Emmanuel Macron doit aujourd'hui, il a d'ailleurs dit lui-même devant les Français, se réinventer, trouver un nouveau projet, être capable de pouvoir proposer aux Français le projet politique et de société de l'après-crise et surtout d'aller vers 2022 avec des circonstances et des idées nouvelles. Ouais. La question, c'est quel portage gouvernemental ? Est-ce que ça sera avec Édouard Philippe, tenant de l'orthodoxie budgétaire, de la rigueur, de la discipline, venant de la droite macro-compatible, ou est-ce que c'est avec une autre équipe gouvernementale ? Ça, la décision, la réflexion se fait en même temps. Mais vous savez, si on se réfère à une période passée, on est à peu près au même moment où Nicolas Sarkozy, dans son mandat, cherchait à trouver un nouveau souffle avec un nouveau chef de gouvernement. Il a cherché, et finalement, comme il n'a pas trouvé, François Fillon est resté donc jusqu'à la fin du mandat. Donc
alors,
tout est possible.
On sera certainement plus avancé dans le début juillet, on verra évidemment tout cela. Emmanuel Dutheil, on va se parler rapidement peut-être de deux choses. C'est vrai que le financement de la dépendance, j'aurais pu faire le lien avec les infirmières de Ève Roger. On attend un plan pour l'hôpital de toute façon, avant la fin juin, bien avant. On a eu des éléments là aujourd'hui sur la dépendance.
Oui, effectivement, alors c'est un vieux sujet, la dépendance, c'est notamment Nicolas Sarkozy qui avait essayé de mettre ça sur pied, c'est là de trouver comment prévoir et surtout comment financer la dépendance. Donc l'une des pistes qui est sur la table aujourd'hui, avancée par le gouvernement, c'est de créer ce qu'on appelle une cinquième branche du côté de l'assurance maladie. Aujourd'hui, vous avez la maladie, la famille, les accidents du travail, la vieillesse. Et donc de créer une branche qui ne servirait qu'à gérer le financement de tout ce problème à venir de la dépendance, bien évidemment. La grande question, c'est de savoir comment on paye. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est une question
un peu aride de
CSG où on en récupère un bout qui aurait dû aller ailleurs, mais on va le mettre là-dessus. Pour le moment, c'est très peu ambitieux et c'est là l'énorme problème parce qu'on sait que c'est un défi majeur pour demain et malheureusement, c'est un...
Et c'est aussi un sujet pour demain, puisque la population vieillit et que de toute
façon,
il faudra faire
face. Et si on n'arrive pas à le financer et à faire ce qui aurait dû être prévu, c'est parce que le Covid est passé par là et qu'il n'y a plus de sous, quoi.
Est-ce qu'on a le temps de se parler d'un mot, non pas de la 380 d'Air France, parce que j'avais Alexandre de Juniac dans un instant qui m'a dit, il y a quelques minutes, qui me disait « Oui, il y aura toujours de toute façon de gros appareils, ça continuera, il le faut de toute façon. » Mais peut-être un mot sur nos livrets A, parce qu'ils se sont remplis pendant les deux mois du confinement.
Je ne sais pas si vous en faites partie autour de la table ou en studio, mais les livrets A se sont remplis presque jamais au mois d'avril. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu une telle collecte. Il y a eu la collecte nette sur les livrets A a atteint quasiment 5,5 milliards d'euros sur le mois d'avril. La raison est toute simple. Les gens ont soit un petit peu moins dépensé et donc ont eu un petit peu de sous à mettre de côté. Et la vraie raison, elle est beaucoup moins rigolote. C'est parce que les gens ont peur de l'avenir. Ils se disent, au moins si j'ai un peu de sous là, ça me permettra de voir venir.
Exactement.
Attendez, je regarde sur le mien, mais il n'y a rien.
Ça ne rapporte pas tant que ça.
Pourtant, Ève Roger regarde 12 fois par jour son application bancaire.
Et les plages aussi accessibles. Allez, merci beaucoup, Mickaël Darmon, Emmanuel Dutheil et Ève Roger, les grandes voix.
Merci.
Merci, à demain. Europe 1.